Jean Diré des Nouvelles,
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est une des actrices préférées de Clint Eastwood, des frères Dardenne ou de Cédric Clapiche, une actrice belge pétillante dont le visage deviendra à partir de demain sur les écrans français le visage de la vengeance. La vengeance d'une femme amoureuse contre l'homme qui l'a délaissée. Cécile de France est avec nous aujourd'hui et avec elle l'un des plus grands spécialistes de l'amour et de la séduction que compte le cinéma français, le réalisateur Emmanuel Mouret, qui la met en scène aux côtés d'Edouard Baird et d'Alice Issas dans Mademoiselle de Jonquière, un film en costume adapté d'un texte publié en 1796 par Denis Diderot. Le film sort donc demain et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là, Emmanuel Mouret. Pourquoi les jeux de l'amour, la comédie des sentiments, pourrait-on dire, vous intéressent-ils tant ?
Ben, on n'est pas responsable de ces obsessions.
Ouais. Ça vous est tombé dessus, comme ça, naturellement, en étant petit?
Oui, je sais pas à quel moment précisément, peut-être pas enfant, mais pas loin. Non, puis je pense qu'il y a, je suis rassuré de pas être le seul, au cinéma. Je pense que ce sont des choses qui, dont je ne suis pas le seul obsédé, voilà.
Certes non, mais vous avez l'habitude de creuser les choses et souvent sur un ton à la fois profond et léger. C'est un petit peu la mission de cinéaste que vous vous êtes donné ?
Non, c'est quand on observe les choses, je pense qu'il faut en saisir peut-être tous les aspects. C'est ce que peut-être j'ai aimé, voilà, étant jeune dans le cinéma de Lubitsch, de Billy Wilder. Et je prendrai simplement cet exemple, bon, qui est comique, de l'homme qui glisse sur la peau de banane. Il y a deux façons quelque part de le filmer, à la fois en rire et à la fois épouser la douleur de celui qui est tombé, qui s'est fait mal. Et peut-être c'est bon, ce qui m'intéresse comme notre cinéaste, c'est d'avoir peut-être ces deux aspects conjoints.
Pourquoi avez-vous eu l'idée d'adapter ce texte de Diderot ?
Alors l'idée, j'en suis pas le responsable, c'est mon producteur qui m'a dit, mais écoute, avec ton écriture, pourquoi tu ne fais pas un film en costume ? Tu pourrais encore peut-être avoir encore plus d'aisance pour faire dialoguer tes personnages, encore plus de liberté dans les intrigues. Et j'ai de suite pensé à ce texte que je connaissais déjà, puisque Jacques le Fataliste et son maître est un roman qui pour moi m'aide beaucoup et m'aide beaucoup dans l'écriture de mes scénarios, puisque il y a tellement de solutions, on va dire, dramatiques ou narratives plutôt dans ce roman, qui est l'art de la parenthèse dans la parenthèse, du raccourci, du récit dans le récit.
Alors là, c'est pas Jacques le Fataliste, hein, c'est précisément
là, c'est
un récit dans le récit,
qui est dans Jacques le Fataliste et son maître. Et c'est vrai que c'est un récit sur lequel j'étais tombé, et chaque fois, à la fois très ému et à la fois très porté par cette promesse de cinéma, puisque l'histoire d'une vengeance, c'est quelque chose qui, en tout cas moi, en tant que spectateur, que j'ai toujours apprécié. C'est un fantasme qui m'arrive d'avoir, mais que je ne mets jamais à exécution, et c'est grâce à des personnages aussi excessifs que la marquise de la Pommeraye qu'on peut parfois profiter d'une vengeance menée jusqu'à son terme.
Un personnage excessif que vous incarnez donc à l'écran, Cécile de France, comment est-ce que vous êtes entrée dans ce personnage ? C'est peut-être important de recadrer pour bien comprendre qui elle est, dans quel milieu elle vit et quelle est sa situation personnelle.
Alors c'est une femme très intelligente, c'est une femme indépendante aussi, parce que c'est une noble veuve, ce qui est un des seuls statuts juridiques à l'époque, enfin un des seuls statuts qui ne la mettait pas sous l'autorité juridique d'un homme. Et puis c'est quelqu'un qui est fascinante par ses excès. Parce qu'elle s'autorise justement, comme dit Emmanuel, un comportement qu'on ne peut se permettre qu'en imagination. Elle va détruire, utiliser, écraser d'autres femmes, deux femmes, donc Mademoiselle de Jonquière et sa mère, pour satisfaire sa vengeance. Et ça, bah voilà, c'est un personnage sans scrupules, d'une cruauté absolue, qui est absolument savoureux pour moi. Pour une actrice, c'est un très très beau cadeau.
Oui, puis
ça,
pour rajouter Et justement, c'est ce qui fait, selon moi, la beauté de l'interprétation de Cécile. C'est en fait aussi un personnage très, très aimable, parce que on se projette aussi, et quand on se venge, en général, c'est parce qu'on est blessé. Et en l'occurrence, c'était une blessure amoureuse, donc.
Est-ce que vous vous êtes projeté, justement, dès le départ, dans le personnage de Cécile de France à travers son visage? Pourquoi est-ce que c'est elle qui est devenue votre Madame de Pommeraye, Emmanuel Mouret ?
Eh bien, en fait, je n'ai pas du tout pensé à Cécile.
Pas du tout. Bon, ça va, elle n'a pas l'air trop vexée.
Non, je savais.
mais Cécile le sait, puisque peut-être au départ, j'avais naïvement plutôt l'idée d'un visage qui incarne justement la vengeance. Ce qui
comme
Glenn
Close,
voilà.
Pas du tout un visage à la Cécile de France.
Voilà, Cécile de France, c'est la meilleure amie, décontractée, sympa, avec qui il n'y a rien à craindre. Et lorsqu'on a fait une lecture ensemble, je me suis aperçu que justement, il y avait d'autant plus à craindre que quelqu'un dont a priori on n'avait rien à craindre.
Oui, à la base c'était un contre-emploi ce rôle pour vous, Cécile de France,
bah,
vous l'avez vécu comme ça ?
On ne m'en propose pas souvent des rôles comme ça, donc j'étais... Enfin, ravie de pouvoir exploiter cette couleur-là, ces émotions-là que j'ai pas l'occasion souvent de faire. Donc oui, j'étais très très contente. Mais à la fois, c'est aussi quelqu'un qui souffre énormément. Hein. Donc c'est pour ça que c'est un personnage très contradictoire, très riche, assez paradoxal et qui est intéressant à interpréter parce que. Elle passe vraiment par plein d'émotions, c'est génial.
C'est un personnage qui aime avec passion, et qui dit passion dit forcément souffrance, et donc au début du film, elle va céder à la cour que lui fait ce marquis, le marquis des Arcis, joué par Édouard Baird. Alors c'est un peu la coutume, elle le fait lanterner un peu quand même. Qu'est-ce qui pour vous, Cécile de France ?
6 mois, hein, quand même.
6 mois, oui, voilà, oui. Oui. Dans le film, ça a l'air un petit peu, ça passe beaucoup plus vite, heureusement, c'est ça pour le spectateur potentiel. Mais bon, quand même, il se languit un petit peu, effectivement, ce marquis des Arcis. Qu'est-ce qui vous séduit, ou plutôt qu'est-ce qui séduit Madame de la Pommeraye dans le personnage du marquis, Cécile de France ?
D'abord, je pense qu'elle s'autorise à vivre cet amour en ayant le courage de s'affranchir de sa catégorie. Elle est dans la catégorie des femmes raisonnables. Il y avait la catégorie des frivoles, qui étaient censées être des femmes un peu dépravées. Et elle fait partie de la femme, de la catégorie, donc, des femmes raisonnables, qui sont censées être des victimes. Et rien que de s'autoriser cet amour, contrairement à sa meilleure amie, qui elle est vraiment ne peut pas sortir de sa programmation, de sa catégorie, et du coup passe à côté de l'amour.
Qui est joué par Laure Calamy.
Laure Calamy, tout à fait, qui est absolument génial. Et donc voilà, déjà elle s'autorise de vivre cet amour, sinon, elle passera à côté de cette émotion tellement incroyable.
Mais alors quand même, ce marquis des Arcis, il a quand même une réputation, il traîne une réputation de libertin. Est-ce que pour quelqu'un de la condition de Madame de la Pommeraye, c'est pas quand même prendre un vrai risque?
Ah oui, tout à fait. Mais justement, elle s'affranchit du jugement des autres. Et ça, c'est très,
c'est une femme
très
libre.
Courageux. Ah bah oui. Parce que son amie, justement, va au début beaucoup s'inquiéter, elle est très sceptique, elle s'inquiète du qu'en dira-t-on et de ce qu'on va dire sur elle, et de la voir finalement prendre sa vie en main en décidant de vivre cet amour au grand jour, c'est s'affranchir justement de ça, quoi. Donc elle est courageuse et elle a raison, en tout cas jusqu'à ce stade-là.
Voilà. Alors, en tout cas, Madame de la Pommeraye le dit, hein, Emmanuel Mouret, son amour est à la fois un sentiment de tendresse et de raison. C'est sur ces deux piliers-là qu'à l'époque se construit le véritable amour dans le monde de la noblesse à l'époque de Diderot.
Je pense que c'est plus pour répondre à son ami, puisque
elle intellectualise un petit peu.
Aujourd'hui, c'est vrai que la passion. Alors tout à l'heure, vous disiez la passion. Il n'y a pas de passion sans douleur, mais la passion a un goût aussi. On va dire assez délectable. La passion est quelque chose de positif. Et d'ailleurs, Diderot font partie des artisans qui ont travaillé à défendre la passion. Jusqu'au XVIIIe siècle, la passion était quelque chose de terrible. Et de se dire, dire une passion tendre et j'ai oublié.
Tendre et raisonnable.
Raisonnable.
La tendresse, c'est la
raison. C'est une façon de rassurer son amie et de se rassurer elle-même, c'est de se dire je suis amoureuse. C'est une voilà, c'est une façon de dire je suis amoureuse d'une certaine manière et nous gérons très bien ce qui nous arrive. Voilà.
Alors ce personnage des Arcis, il est incarné, je l'ai dit, par Édouard Baird. Et alors c'est assez impressionnant, parce que autant on peut être étonné au premier abord comme ça, en vous voyant vous sur l'affiche Cécile de France dans ce rôle en costume qui n'est pas effectivement un de vos rôles habituels, autant pour Édouard Baird et Emmanuel Mouret, on se dit mais forcément ça ne pouvait être que lui. On a l'impression que ce rôle-là, ce costume-là est taillé pour lui. C'était une évidence ?
Oui, alors c'est toujours un moment, mais là où ça a été une évidence, c'est quand je suis allé, c'était pas dans mes souvenirs justement de ce qu'il avait joué au cinéma, mais c'est en allant revoir une lecture de Modiano qu'il avait déjà faite il y a 4-5 années auparavant, qui mettait en scène une amie, que je me suis dit, bah oui, il serait extraordinaire, parce que il avait cette sincérité aussi, et parce que c'est un marquis séducteur, mais
oui,
extrêmement sincère.
Oui.
Et je l'ai trouvé vraiment très touchant, parce que je pense que c'est un Édouard Baird aussi qu'on n'a pas l'occasion de voir. Et que c'est un personnage aussi très, très touchant dans l'histoire.
Mais le personnage Édouard Baird, le personnage public Édouard Baird, a aussi quelque chose du marquis des Arcis, vous trouvez pas? Dans les gestes, dans l'articulation, même dans la langue qu'il emploie.
Évidemment, cette élégance, cette distinction, cette élocution, on va dire, si précieuse, qu'il a, et avec laquelle, il sait très bien de nous faire rire, lorsqu'il lisait les répliques, ça lui allait. Ouais. Bon, ça semblait être écrit pour lui. Donc c'était d'un naturel contemporain pour lui.
Mais vous lui avez dit sois toi-même, ou bien vous l'avez quand même dirigé un peu?
Par rapport au personnage, non, on était parti. Il avait très bien compris le personnage, puisque d'ailleurs quand il a fini le scénario, il m'avait dit bah c'est moi.
Voilà. C'est plutôt pas mal comme diagnostic, voilà, à la fin d'une lecture.
Et donc on n'a pas, il y a eu absolument aucune explication de texte. Voilà.
Et petit à petit, par petites touches, le marquis des Arcis va s'éloigner de Madame de la Pommeraye, il va la délaisser, et ça, Cécile de France, votre personnage ne le supporte pas et va donc se venger. Bande annonce.
Marquis, que vous importe que mon nom apparaisse dans la liste de vos conquêtes?
J'ai bon espoir.
Son orgueil est tel qu'il n'ose rentrer à Paris sans avoir vaincu sa proie. Dois-je comprendre que vous vous êtes abandonné au marquis?
Toutes les passions ne se ressemblent pas. La nôtre est intense, sans être excessive, et nos sentiments sont aussi pleins de tendresse que de raison. M'est-il possible de connaître ces pensées qui m'éloignent de vous?
J'ai peur qu'elle ne me fâche autant qu'elle me fâche.
Vous vous souvenez de Madame de Jonquière?
Ce n'est pas qu'elle ne soit belle comme un ange, qu'elle n'ait de la finesse, de la grâce, mais elle n'a aucun esprit de libertinage.
Pourquoi le marquis s'attacherait-il à cette fille alors qu'il ne s'attache à aucune autre?
Parce que le marquis ne résiste pas à ce qui lui résiste.
Madame, rendez-moi un service.
Lequel?
Ayez compassion de moi. Je veux la revoir.
Quel est l'état de votre cœur?
Il faut que j'aie cette fille-là, ou que j'en périsse.
Je vous en supplie, madame. Il sacrifie la moitié de sa fortune, n'est-ce pas assez?
Pour moi, le compte n'y est pas.
Je crains cependant que votre entreprise soit excessive.
Mon entreprise est en deçà de ma douleur et du coup que le marquis m'a porté.
Je mettrai 10 hommes à leur trousse, mais je les retrouverai. Je forcerai à leur porte, je ne sais ce que je ferai. Mais vous avez tout à craindre de l'état de violence dans lequel je suis.
Si aucune âme juste ne tente de corriger les hommes, comment espérer une meilleure société?
Et c'est donc cette fameuse Mademoiselle de Jonquière qui va servir d'appât en quelque sorte et devenir le cœur du projet de vengeance de votre personnage, Cécile de France, de Madame de la Pommeraye. Comment est-ce qu'elle lui met le grappin dessus, cette pauvre jeune femme?
Eh bien, c'est son amie qui lui raconte cette histoire de ces deux femmes, oui, qui ont été déshéritées, qui se retrouvent dans le statut de prostituée.
Elle travaille dans un tripot.
Voilà. Et donc, elle va tout simplement se servir de ces pauvres femmes. Et voilà, pour satisfaire sa vengeance, elle va aller les manipuler sans scrupule.
Voilà, c'est Alice Issaz qui joue ce rôle. Elle est toujours accompagnée effectivement de sa mère qui s'appelle Natalia Doncheva. C'est une mère qui...
C'est l'interprète.
Oui, bien sûr, absolument. Donc sa mère s'appelle Madame...
Madame de Jonquière.
Il y a Mademoiselle de Jonquière. Et la mère vit réellement pour sa fille. Elle est extrêmement protectrice, cette mère-là. On a l'impression qu'elle culpabilise aussi un peu de l'endroit dans lequel elles vivent toutes les deux maintenant.
Oh ben oui, parce que ce sont, on va dire, la mère est issue, on va dire, de la noblesse, elle a tout perdu, et c'est une occasion que lui donne, on va dire, Madame la Pomeraye de remonter socialement. Donc elle veut absolument servir les plans de Madame la Pomeraye pour pouvoir, on va dire, remonter dans une classe sociale un peu plus digne que celle de la prostitution.
Votre imagination me surprendra toujours. Une jeune femme embarrassée par votre insistance lève une paupière et vous brodez des rêveries extraordinaires. Vous, l'homme de raison, vous, l'épicurien qui croyez que nous ne sommes qu'un amas d'atomes.
C'est ce que ma raison ne cesse de me répéter, madame. Et pourtant jamais un regard ne me parut si vrai.
Vos jamais ne durent jamais plus longtemps que vos toujours. Je suis bien placée pour l'avoir observé. Peut-être jamais n'y eut-il de dévote dans votre collection ?
J'ai sans doute raison. J'ai sans doute raison. Et pourtant...
Marquis, prenez garde à vous. N'allez pas confondre celle-ci avec toutes celles que vous avez connues. On ne les tente pas, on ne les séduit pas, on n'en approche pas, on n'en vient pas à bout. Faites-moi confiance. Si vous voulez ne pas souffrir, oubliez cette fille.
Cécile de France, vous le disiez tout à l'heure, hein, jouer un personnage aussi manipulateur, aussi machiavélique, c'est forcément jouissif pour une comédienne comme vous. Est-ce que vous aviez l'impression, en incarnant Madame de la Pomeraye, d'incarner une comédienne ?
Oui, tout à fait, oui. C'est vrai qu'on voit bien la différence. Il y a une scène du dîner, notamment, où on voit que la marquise de la Pomeraye, mon personnage, contrôle absolument toutes ses émotions. Et elle se joue un spectacle, elle jouit de ce spectacle, vraiment, elle se régale. Alors qu'en face, le pauvre marquis, qui lui est pour le coup vraiment débordé par ses émotions, puisqu'il est en présence de la demoiselle de Jonquière, dont il est amoureux. Et là, il joue très très mal la comédie.
Voilà.
Donc effectivement, je suis une comédienne qui joue à la comédienne, tout à fait.
Alors on va écouter justement un extrait de cette fameuse scène du dîner. Alors évidemment, à la radio, on a pas l'image, mais c'est bien parce que vous avez... très très bien décrit effectivement la façon dont le spectateur peut regarder cet extrait. Dîner donc avec la mère et la fille, Mademoiselle de Jonquière, dîner au cours duquel le marquis est censé arriver impromptu. Nouvel extrait.
Mesdames, oh, je vous en prie, restez assises, mangez. Et prenez encore un peu de ce vin pour vous consoler de toutes les privations que cette nuit de pénitence vous impose. Profitez que le marquis ne soit pas encore là. Je ne serais pas étonnée qu'à cause de son impatience, il arrive en avance. Oh, je suis pressée de voir toute la comédie qu'il nous donnera. Je suis certaine, en tout cas, que j'apprécierai la vôtre, mesdames.
Madame, voilà plusieurs jours que ma fille et moi nous nous préparons. Soyez assurée que nous jouerons de notre mieux.
Comme ces habits vous vont bien, qu'il est devenu difficile de vous imaginer il y a encore peu de temps. Mesdames, la voiture du marquis approche.
Madame, le marquis des Arcy me demande de l'annoncer.
Il est là. Faites-le entrer. Je lui ai dit d'être tout surpris de vous trouver ici et de faire des manières avant que d'accepter mon invitation à se joindre à notre dîner. Voyons ses talents de comédien. Mangez. Marquis ! Vous ici ?
Madame, je ne savais pas que vous donniez à dîner, je ne suis même pas habillé. J'étais passé visiter les terres d'un ami qui souhaite s'en débarrasser non loin d'ici, et sur le chemin du retour pour Paris, je me suis dit que si j'étais dans la région, que vous l'appreniez et que je ne passais pas vous saluer, j'encourrais quelques reproches.
Vous avez bien fait, marquis, vous êtes le bienvenu. Connaissez-vous Madame de Jonquière et sa fille ? Oh, les auriez-vous oubliés ? Nous les avions croisées lors d'une promenade au jardin du roi.
Non, je m'en souviens. Mesdames, je ne voudrais pas déranger plus longtemps une telle réunion, permettez-moi de me retirer.
Vous partez, marquis ?
Je crains d'être importun, madame.
Et s'il me venait de me sentir vexée de vous voir partir si vite ?
Madame, vous vexez la dernière chose que je souhaiterais.
Ouais, et on voit le regard à la fois énamouré et totalement désemparé d'Edouard Baer face à une Alice Issès qui elle est silencieuse, les yeux baissés et qui va changer d'attitude complètement dans la dernière partie du film. Mais on n'en dira évidemment pas plus ici. Emmanuel Mouret, on est obligé quand on entend votre personnage, et c'est vrai que vous avez très bien décrit la scène avant de l'entendre, mais c'est radiophoniquement aussi très clair, on est obligé quand on vous voit et même quand on vous entend, Cécile de France, de penser à un personnage majeur de la littérature française, à la marquise de Merteuil des Liaisons Dangereuses. Vous aviez ce nom-là, ce personnage-là en tête pour incarner votre personnage?
Ah oui, complètement, c'est ça qui m'a complètement excitée à habiter ce rôle, quoi. Après, voilà, c'est vrai que j'ai regardé Glenn Close, j'ai regardé Annette Bening dans Valmont aussi. Oui. J'ai pris le machiavélisme de une et les faux sourires de l'autre. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ces deux actrices extraordinaires sur lesquelles j'ai pu me documenter, on va dire. Et puis c'est vrai qu'après, j'ai essayé de voir un petit peu les différences et j'ai constaté quand même que Madame de Merteuil était libertine, alors que Madame de la Pommeraye, voilà. Madame de Merteuil, en tout cas, personnage, Glenn Close est très... Elle tient aussi des propos féministes, toutes les deux, ça c'est identique. Après, elle s'interdit d'aimer pour ne pas souffrir, alors que mon personnage, Madame de la Pommeraye, est une grande amoureuse et qui est profondément blessée. Donc je voyais des similitudes et des différences, mais en tout cas, j'avais la même jouissance, je crois, en tant que comédienne, comme l'a eu Glenn Close et Annette Bening à interpréter ce genre de personnage.
Et le marquis des Arcis, par contre, il est vraiment très très loin de Valmont, quand même. Même s'ils sont libertins tous les deux, Emmanuel Mouret, c'est pas du tout le même genre de caractère. Il n'a pas le cynisme d'un Valmont, ce marquis de Diderot.
Il n'a absolument aucun cynisme, ni celui de Don Juan. Il le dit lui-même dès le début... Il séduit parce qu'il est séduit. Et le fait d'être séduit lui donne un appétit évidemment immense qu'il cherche à combler. Mais il ne cherche pas à séduire, par stratégie, par... Non. Il montre combien il est charmé.
Donc c'est le combat de deux amoureux, en fait. Ils sont amoureux au début du film.
Oui.
Et même en combattant, quand elle essaie de se venger, Madame de la Pommeraye, les deux personnages restent amoureux et amoureux sincères.
Oui, ils sont moins désabusés, en tout cas. Il y a moins de cynisme que dans Les Liaisons Dangereuses, c'est vrai.
Quel regard est-ce que vous portez? Le mot est peut-être très très vilain, mais enfin, je l'utilise quand même. Quel regard est-ce que vous portez sur la morale telle que Madame de la Pommeraye la vit et la met en application? Parce que la question de la morale, c'est une question qui est quand même fondamentale à cette époque. On est à l'époque de la Régence, donc juste avant Louis XV, donc on est vraiment dans une époque où l'Église compte énormément, le regard des autres, le regard de la société aussi. Quel regard moral est-ce que vous portez sur votre personnage, Cécile de France?
Moi, j'ai eu envie de suivre ce que proposait Diderot et Emmanuel Mouret, d'ailleurs, c'est inviter le lecteur pour Diderot et le spectateur pour Emmanuel, inviter les gens à finalement se forger sa propre opinion. Et moi...
Diderot ne juge pas.
Non, voilà, il ne condamne pas. Il considère qu'il faut de tout pour faire un monde. Non, il n'y a pas à juger. Mais alors voilà.
Vous êtes obligé de juger votre
personnage. C'était très compliqué. C'était très compliqué parce que c'est un dilemme pour une actrice de jouer un personnage comme ça qui à la fois souffre énormément. Donc on a beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour pour elle. Moi, j'avais envie de la défendre.
Mais nous aussi, on a de l'empathie pour elle.
Mais oui, et
je pense que dans tout à l'autre du film.
Mais parce que si elle avait été un homme, elle l'aurait provoqué en duel, par exemple. Mm-hmm. Donc sa vengeance est légitime. À la fois, sa douleur est vraie. Et en même temps, en contradiction avec ça, elle se sert d'autres femmes alors qu'elle tient des propos féministes. Donc tout ça est bourré de contradictions. C'était très compliqué pour moi d'arriver à me positionner.
Emmanuel Mouret.
Non, j'allais dire, mais quel pouvoir on a sur une blessure amoureuse? On en a très peu, et le spectateur... et c'est là, d'ailleurs, où le cinéma est intéressant, parce que, justement, quand on est spectateur, on peut comprendre des gens, qui ont des réactions qu'on peut juger, on va dire, moralement, douteuses ou mauvaises. Mais comme disait Jean Renoir, ils disent qu'il y a de plus terrible au monde, c'est que tout le monde a ses raisons et un cœur blessé, un peu comme la sorcière dans Kirikou. voilà, un cœur blessé. On comprend qu'un cœur blessé, voilà, est capable de tout.
Un extrait du concerto pour harpe et orchestre de Boieldieu, interprété par Lily Leskin dans VMDN sur RFI, un morceau qui fait partie des très nombreuses œuvres musicales qui accompagnent l'action de votre film Mademoiselle de Jonquière, Emmanuel Mouret. La musique, elle prend une dimension particulière dans un film d'époque, dans un film à costume.
Oui, alors moi je dirais dans tout film, puisque dans un film de science-fiction également. Là, c'est vrai que peut-être on a travaillé avec des compositeurs qui se rapprochent de cette époque plutôt baroque, comme Bach et Vivaldi. Mais la musique, en tout cas en me concernant, dans les films, elle a une part extrêmement intuitive. Voilà, c'est pour ça que j'ai toujours beaucoup de mal à en parler, puisque avec mon monteur, on passe plus de la moitié du montage à les chercher, à les essayer, à les équilibrer.
Oui, parce que la musique, la lumière, la nature, oui, les décors doivent vraiment être à l'unisson. Quoi. On peut pas
les séparer. Doivent être à l'unisson ou doivent se compléter quelque part. Et un visage supporte telle musique, pas forcément un autre visage. C'est une drôle d'alchimie. Et au bout, voilà, d'un certain nombre de films, j'avance dans le noir à tâtons, sans avoir, on peut dire, une façon de faire.
Oui, là en plus il y a des scènes de promenade, il y a beaucoup de scènes qui se passent dans les parcs, qui se passent en forêt, qui se passent dans la nature d'une façon générale. Il y a de véritables tableaux, hein, comme ça, dans lesquels se promènent et discutent les personnages. Parce que, alors ça peut paraître un peu tranquille, un peu plat comme ça, mais c'est pendant les promenades finalement que l'action en elle-même, que l'intrigue se noue, quoi. L'art de la conversation est vraiment un moteur du scénario.
Ben oui, et puis c'est
plus l'époque qui veut ça.
Même que, non, je pense que c'est pas l'époque. Aujourd'hui, c'est pareil. Moi, je trouve que c'est un tort d'opposer au cinéma le dialogue et l'action, parce que il y a des mots qui tuent. Et des, ou même des mots qui font beaucoup plus de mal qu'un poignard ou qu'un coup de poing. Et puis les mots, c'est de l'air qui est actionné, qui va taper sur le tympan de quelqu'un. Donc je ne fais pas de différence. Donc évidemment, il y a beaucoup d'accents dramatiques qui sont contenus dans les dialogues, mais pour moi c'est de l'action.
Alors justement les dialogues, Cécile de France parlait dans cette langue, alors je ne sais pas si c'est vraiment la langue du XVIIIe siècle, en tout cas c'est une langue qui ressemble à la langue du XVIIIe siècle, c'est un obstacle ou c'est un défi stimulant pour une actrice?
Non, plutôt un défi stimulant de partager avec le spectateur la beauté, la richesse, la brillance de toutes ces argumentations. Moi, je trouve que c'est de nouveau se dire mais quel trésor on avait et de s'en souvenir. Après, moi, c'est vrai que tous les acteurs du film ont fait du théâtre et moi aussi. Donc, dans le théâtre classique,
on a déjà abordé ce...
Voilà, on l'a déjà malaxé, cette ouais. langue. Et donc, elle ne fait pas peur, c'est plutôt un atout et un plaisir. Et puis, mais c'est vrai que c'était important. Avant de voir le film, je me disais est-ce que cette langue va parler aux gens ? Et en fait, c'est vrai. Il y a une contemporanéité quand même, malgré tout. Il y a quelque chose de. Et puis, parce qu'on est sincères, nous acteurs, évidemment. Mais il y a quelque chose qui est adressé et qui résonne, je pense, directement en nous, en chacun de nous.
Comment est-ce qu'ils ont été écrits les dialogues précisément, Emmanuel Mouret ? Parce que vous n'avez pas mis dans vos comédiens, dans les mots de vos comédiens, les mots de Diderot directement.
Alors, Une partie. Je pense que j'ai pas fait le calcul, mais il doit y en avoir peut-être un quart, un tiers. Dès que j'ai pu conserver, puisque comme le récit est grand comme une nouvelle, dès que j'ai pu conserver des dialogues, j'ai essayé de le faire. Et puis après, j'ai brodé autour, où j'ai créé des scènes, parce qu'il y a un certain nombre de scènes qui sont des créations originales ou même des personnages comme
ça. Oui, parce qu'il a fallu étoffer.
Voilà. Il fallait étoffer.
Puis j'avais fait pas un long film.
Il y a des choses que je voulais développer, préciser ou dramatiser. Ça s'est fait assez simplement parce que peut-être le fait d'être à côté avec les mots du Diderot, il nous vient aussi des mots. Ça vient assez naturellement.
C'est vrai que c'est vous qui avez inventé le nom du personnage, le nom de Mademoiselle de Jonquière. J'ai lu que ce n'était pas dans la nouvelle, le nom
oui,
Jonquière.
Oui, c'est Mademoiselle des noms. Des noms et du Ken. Il y avait quelque chose, je me souviens plus, le Quénois, voilà.
Mais pourquoi l'avez-vous changé? Alors le Quénois, ça peut faire référence au film de Châtillier.
Voilà, ça faisait référence
au film de Châtillier. Oui.
Et je voulais qu'il y ait une consonance noble pour que le marquis croie vraiment au récit que lui fait la marquise, comme quoi, voilà. Alors, c'est parce qu'il y a des récits dans le récit, donc c'est pour ça qu'elle c'est la voilà. Donc qu'il croit vraiment que cette jeune femme est véritablement noble et que nous, avec nos oreilles actuelles, ça sonne véritablement noble. Des noms, c'était pas suffisant, voilà.
Oui, et c'est ce personnage-là qui, pour vous, même si finalement c'est un personnage relativement discret dans une très grande partie du film, qui est le cœur, le noyau du film, au point de justifier que c'est ce nom-là qui en soit le titre?
Ben, c'est un personnage qui, sans dévoiler l'histoire, qui est un peu une marionnette. Elle obéit aux ordres de la marquise et de sa mère, et qui ne dit rien, que nous, on voit un peu comme presque une figurante ou une silhouette dans le film. Et qui d'un coup, brusquement, vers la fin du récit, va avoir une ampleur, voilà.
Oui. Mais le film pouvait pas s'appeler Madame de la Pommeraye.
Parce que je voulais que le spectateur porte une attente sur ce personnage-là et que ça passe reste pas comme une sorte de Deus ex machina.
Beaucoup de personnages féminins dans ce film. Emmanuelle Mouret, 4 actrices pour un acteur. La troisième actrice, on l'a citée tout à l'heure, c'est Laure Calamy. Et c'est vrai qu'elle est formidable. C'est la confidente, c'est votre amie extrêmement proche, Cécile de France, la confidente évidemment de Madame de la Pommeraye. Et ça, c'est un personnage qui n'existe pas non plus dans le récit de Diderot. Ça, c'est un personnage made in Mouret.
Voilà. Ben, j'avais.
Pourquoi il y avait besoin de ce personnage?
Oui, alors c'était bien d'avoir un personnage qui puisse recueillir les pensées et les sentiments de Madame la Pommeraye. Et c'est un personnage à l'écriture auquel je me suis vraiment attaché. Déjà, il représente un peu le point de vue de la majorité des spectateurs, c'est-à-dire un peu la raison gardée face à la démesure de son amie la marquise et de ses projets. D'abord projet amoureux, puis ensuite projet de vengeance. Et en travaillant sur leur amitié, alors d'abord de par l'écriture et ensuite de par le tournage, il s'est dessiné quelque chose d'assez beau. Et le fait d'une amie, et là je parle du personnage qu'interprète Laure Calamy, qui voit sa meilleure amie s'éloigner d'elle. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quelqu'un qui nous est très proche et qui, à cause d'un événement et tout ça, on n'arrive plus à véritablement garder le contact. On sent que on n'est plus en raison. Et puis, pendant tout le film, comme nous, le spectateur, elle la voit avec une tendresse, avec évidemment tristesse et tendresse, s'éloigner dans ce qu'on pourrait dire son délire, que nous, spectateurs, nous comprenons aussi. Mais voilà, et je trouvais voilà cette relation très belle pour ça, et je trouve que Cécile et Laure ont parfaitement réussi ça.
Ça passe par une vraie complicité sur le plateau, Cécile de France.
Oui, je la connais depuis 22 ans. C'est mon amie d'école, en fait, de l'école de la Rue Blanche. Donc, et d'ailleurs, c'est moi qui proposais à Emmanuel de la rencontrer.
Merci, Cécile.
Oh, mon ami, mais quelle folie! De toute façon, votre plan ne tient pas debout.
Et pourquoi donc?
Pourquoi le marquis s'attacherait-il à cette fille alors qu'il ne s'attache à aucune autre?
Parce que le marquis ne résiste pas à ce qui lui résiste. Et si je lui ai inspiré dans le temps des grands sentiments, c'est à proportion de ma résistance.
N'avez-vous jamais observé que l'amour grandit quand l'objet de nos vœux nous échappe?
Vous semblez bien sûr de vous.
Si je vous disais que le marquis vient tous les jours me rendre visite pour s'enquérir l'air de rien de quelques nouvelles que je pourrais avoir de cette fille et de sa mère, je vous avoue que je ne m'attendais pas à ce que le marquis soit une proie si facile.
Je crains cependant que votre entreprise soit excessive.
Mon entreprise est en deçà de ma douleur et du coup que le marquis m'a porté.
Soyez juste. N'étiez-vous pas informé de sa nature inconstante? À quoi nous sert-il d'en vouloir à un homme malhonnête si la nature l'a ainsi fait?
Serait-il juste de laisser la malhonnêteté vagabonder à son aise? Ma colère est pleine d'un esprit de justice. Je ne cherche pas une revanche personnelle. Je vois en moi le genre féminin et en lui le genre masculin.
Pour rendre justice, notre cœur doit être pur et loin de tout ressentiment.
Madame, c'est cette pureté qui m'anime. Si aucune âme juste ne tente de corriger les hommes, comment espérer une meilleure société?
Cécile de France, le mot, vous l'avez prononcé vous-même, c'est le mot féminisme tout à l'heure. C'est un mot évidemment qui est complètement anachronique par rapport à l'époque à laquelle se passe l'intrigue. Mais est-ce que votre personnage annonce les Lumières et peut-être même au-delà?
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'à l'époque, le féminisme n'existait pas, mais Diderot était un défenseur de la liberté des femmes, comme il l'était de toutes les libertés et de tous les humains d'ailleurs. Et c'est vrai que c'était au moment de la Révolution française, on était au sein d'une crise sociale qui s'interrogeait, qui sur les inégalités, sur la liberté, le statut de la femme était enfin pris en compte. Donc il y a effectivement un parallèle entre l'ébullition, la réflexion du siècle des Lumières et puis aujourd'hui la réflexion qu'on a sur les différents moyens de s'exprimer dans le monde de l'amour, notamment, je sais pas, je pense au célibat, au donjuanisme, au polyamour, par exemple, à l'homosexualité. Donc j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a une En tout cas, une volonté de réfléchir à ça et de peut-être arrêter de condamner et de juger. Ouais.
Et c'est en ce sens-là aussi, Emmanuel Bourret, que le film et l'histoire de Diderot sonnent effectivement extrêmement contemporains, malgré les costumes que l'on peut voir à l'écran. Ça, c'est aussi la magie du cinéma.
Oui, et que quelque part, j'allais dire presque, cette distance nous renvoie à notre actualité encore d'une façon plus vive, et c'est ça qui est intéressant, puisqu'on suit finalement dans les films en costume, on les suit, on n'est plus directement dans le cœur des choses. Je trouve dans les films actuels, on est pris par les questions de l'actualité, par nos usages et tout ça. Dans un film d'époque, on se laisse aller. Mais ça, c'est peut-être.
Oui, comme il y a une distance avec le monde extérieur, ça s'adresse directement à notre monde intérieur.
Pourquoi est-ce que vous avez attendu aussi longtemps avant de faire un film en costume, Emmanuel Mouret? Je le disais, c'est votre 9e. Je crois.
Oui.
Et là, votre objectif, justement, à travers la suggestion de cet ami que vous évoquiez au tout début de l'émission, c'était enfin votre producteur. Voilà, on peut être ami et producteur
et
en même temps.
Alors, c'est mon ami également.
Voilà. Merci de le confirmer. Donc, l'idée, c'était justement de faire un premier film en costume. C'est beaucoup plus lourd à faire. Ça change tout.
Oui.
Un film en costume.
Oui, quand même, parce que je mettais entre 1 an et 2 ans pour préparer le film suivant. Là il a fallu 3 ans, par exemple. Donc ça a été
La fabrication des costumes
c'est des choses matérielles. Ça veut dire qu'il faut réunir plus d'argent pour faire un film en costume, et donc ça peut prendre plus de temps, et il faut peut-être convaincre plus de personnes. Donc ça a été plus long. Après on est très très heureux de l'avoir fait, puis ça nous donnera peut-être d'autres idées pour la suite.
Voilà, vous avez de très très belles toilettes dans le film, hein, Cécile de France, très variées, très colorées. Alors je sais pas si c'est une impression que j'ai eue ou si je me trompe complètement, mais j'ai l'impression que plus l'action avance, plus votre garde-robe est vive et colorée et presque flashy.
Oui, c'est vrai qu'on s'est amusé, hein, avec Pierre-Jean Larocque et donc le costumier et son équipe qui ont fabriqué de toutes pièces ces robes qui ont effectivement des couleurs et voilà.
Il y avait un dress code selon, on va dire, l'axe dramatique de la scène et avec qui elle était et tout ça, je me souviens.
Ouais.
Telle robe, on ne la met pas là, on ne la met pas en ville, mais on la met simplement
voilà. Les couleurs rouges sont plutôt les couleurs de la passion ou du diable, alors que des couleurs plutôt vertes, c'est quand elle est dans la nature, ou bleues quand elle est triste. Donc on s'est beaucoup amusé avec ça.
Et puis les robes avaient été pensées avec les décors. Enfin voilà, donc il y a c'était très 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 ludique, somme toute, très très ludique.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir, Cécile de France et Emmanuel Mouret. Le film Mademoiselle de Jonquière sur les écrans français à partir de demain.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Direction le Liban, avant de se quitter, les grands festivals ont été nombreux tout l'été au pays du Cèdre, mais avec le Wicker Park, les organisateurs tiennent à valoriser la scène alternative et les artistes locaux. Ce festival a été créé en 2011, la 8e édition se tenait ce week-end à Batroun, dans le nord du pays. Reportage pour VMDN de l'un de nos correspondants au Liban, Nicolas Feldman.
À l'origine du festival Wicker Park, la famille Daou, 3 frères et sœurs, une maison en bord de mer et à côté, un grand terrain vague. La scène alternative vit quelque peu à l'étroit à Beyrouth. La famille Daou va donc lui offrir chaque année un site à une 50aine de kilomètres au nord, à Batroun. Junior, le cadet de la fratrie, cofondateur du festival Wicker Park.
Nous, le concept, c'est que les gens découvrent de la nouvelle musique, la musique qui est bonne et qui a pas assez de lumière. On veut juste que les musiciens ont la chance de jouer de la musique sur une scène qui est professionnelle, qui n'existe que dans les grands festivals comme Byblos et Baalbek. Mais eux, ils ramènent des gens connus, sûrement.
Sur les 7 dernières éditions, le Wicker Park, c'est 80 groupes, quelques 150 artistes et une programmation éclectique. Ce week-end sur scène, on a pu entendre de la pop avec les Libanais de Postcards et dans un style un peu plus déjanté, le mélange électropunk de Kid Fortine. Le chanteur Rodor s'était produit pour la première fois au festival Wicker Park il y a 2 ans. Un coup de pouce bienvenu à l'époque dans sa carrière.
J'ai eu la chance de rencontrer des gens et j'ai pu faire quelques concerts après être passé ici. D'habitude, je joue devant 100 à 200 personnes et là, tu te retrouves devant 2000 personnes. En fait, ça m'a permis aussi en quelque sorte de briser ma carapace. J'ai pu me dire, ok, j'ai joué dans un grand festival avec des professionnels. Ici, vous savez, vous avez de très gros labels comme Rotana dans le golf. Vous signez avec eux, ils distribuent, ils s'occupent de tout ce qui est commercial, la communication, et ils font de toi une star. Et ils ont beaucoup d'argent. Et c'est ça la différence. Moi, je fais tout par moi-même. Mon premier album, je l'ai enregistré tout seul. Puis après, il faut trouver les amis, puis penser à comment tu veux vendre et qui va acheter, et puis à se développer avec un label à l'étranger.
Même combat pour le rappeur Mazen Seyed alias El Ras, un rap piquant, un mélange de dialectes libanais et d'arabe littéraire. El Ras, c'est une carrière de 7 ans, 3 albums, des tournées en Europe et dans le monde arabe, mais une musique toujours aussi difficile à imposer.
C'est clair que pour les radios, c'est pas le top, tu vois, de parler politique ou religion, ou même de genre mentionner par leur nom des gens de la politique libanaise ou régionale ou tout ça. Moi, j'ai eu plus accès à des scènes à l'extérieur du Liban qu'à l'intérieur du Liban. Parce que les gens ont peur, pas juste dans le sens politique et tout ça, mais aussi ont peur de prendre des risques.
Au-delà du soutien à la scène alternative, le Wicker Park, c'est aussi une philosophie. L'événement se dit ouvertement gay-friendly et recycle l'intégralité de ses déchets. Le ticket d'entrée, lui, se veut abordable à 25 euros, un ensemble qui rend le modèle économique fragile. Junior Daou.
Nous, on a un grand problème au niveau des sponsors et des fans, parce qu'il n'y a personne, les banques te disent genre, on ne veut pas genre, soutenir un truc où il y a de l'alcool ou un truc du genre. Chaque année c'est un combat. Genre ça fait l'année dernière, on a vraiment genre à peine fait genre, un profit, genre peut-être 2 000 $ ou un truc du genre. Mais tu payes le prix.
Et pas de quoi décourager pourtant les organisateurs qui vont poursuivre leur mission. La famille vient d'ouvrir juste à côté du site un restaurant pour continuer de promouvoir les valeurs du festival tout au long de l'année.
Reportage de Nicolas Feldman pour VMDN. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec l'écrivain Metin Arditi pour son nouveau roman Carnaval Noir chez Grasset. Et vous m'en direz des nouvelles.
ناقص حنان وناقص نار بعين ترتيب وراس كون بعين هلا من وجع بكره على مين راح علق امل على اصل البلد عامر حرب ودون خجل كوش عالبلد مدير بنك بيترقى كل ما من النهار على نفسي انا لها على مين راح علق امل على اصل البلد عامر حرب ودون خجل كوش عالبلد مدير بنك بيترقع كل ما من النهار على نفسي انا لها انا واحد القصب شي بهو انا وين الصحف شي ببك بيعان الزمام شي ببك طبخان العمام شي ببك دردرن درم شي ببك شي ببك شي ببك طب بكفي عيني بكفي حتى نجف.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.
L'arcabe المستنقع براسي جزيرة الكنز تركنا فضيلة البنج على شاطئ الأمس خلعنا سقافة الفرجة والهمس لنركب قوالب الجهر نشيد مراكب الجهد أشهد وأجهد وحتى مطالع الفجر بصحة جنسيتك هل في صباحك المجد هم هل استاذك الخوف يشمك الكلب باكل الطعم وخلاص النار جفاف جفاف الطقس هون ناقص حنان وناقص نار.